VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Conakry, 13h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. Afrique de l'Ouest tout d'abord, en Guinée, 6 militaires dont un ancien chef de l'armée en prison depuis l'attaque du domicile du président Alpha Condé en 2011 ont été libérés. Le point avec Idriss Fall.
Le juge Sékou Dany Keita, un magistrat civil, président du tribunal militaire permanent de Conakry, a condamné les 6 prévenus à un temps égal à leur détention préventive et respective et a ordonné leur libération. À l'énoncé du verdict, le général Nuhu Cham, ex-chef d'état-major de l'armée, s'est refusé à toute déclaration. Il a fondu en larmes alors que des proches des détenus dansaient dans la salle. Le général Nuhu Cham et le lieutenant-colonel Mamadouba Bondoban Camara, ancien préfet de Doubreka, étaient en détention préventive depuis juillet 2011. Ils ont été jugés pour désertion et violation de consignes lors de l'attaque du domicile privé du président Condé le 19 juillet 2011. En juillet 2013, le commandant Alpha Omar Diallo, présenté comme le cerveau de cette attaque, et l'officier Jean Guilavogui avaient été condamnés à la réclusion à perpétuité.
Au Niger, même si la sécurité s'est améliorée dans la région de Diffa, dans le sud-est du pays, des centaines de milliers de personnes sont soit déplacées, soit réfugiées côté nigérien de la frontière avec le Nigeria. C'est dans ces camps que s'est rendu l'envoyé spécial de la Voix de l'Amérique, Nicolas Pinault, son reportage.
De part et d'autre de la route nationale 1, les camps se suivent et se ressemblent. Le bitume est brûlant, nous sommes à 1300 km de Niamey, la capitale. Ici, les réfugiés nigérians cohabitent avec les déplacés nigériens. Deux nationalités différentes, mais une seule crainte, Boko Haram. Mataram Kodogo a fui son village avec ses 8 enfants. Depuis le camp de Ngourtois, elle raconte son cauchemar.
Il était 2h30 du matin, c'était le jeudi de la Tabaski. Boko Haram est entré dans le village. Avec les tirs, c'était sauf qui peut, en pagne, en culotte, sans chaussures, tout le monde fuyait. Moi, j'ai pris le plus petit sur le dos, un autre enfant sous le bras et l'autre, je le traînais.
Les témoignages horrifiés se répètent et bien qu'en sécurité avec l'armée nigérienne qui patrouille, les déplacés ont peur. Le quotidien n'est pas facile dans les camps malgré l'aide internationale. Oumaru Boka travaille pour l'ONG italienne COPI. Il est basé à Diffa.
À part la nourriture, il y a un besoin d'abri. C'est sûr que les gens sont dans des abris de fortune. C'est vrai qu'on ne peut pas donner des abris à tout ce monde, mais il y a ce besoin d'abri. Alors, les ONG, on s'efforce à donner le minimum quand même pour toute la population. Mais vu le nombre de personnes, c'est un peu compliqué.
La région de Diffa était déjà dans une situation alimentaire précaire depuis un an. Les Nations Unies ont enregistré un déficit céréalier de plus de 100 000 tonnes lors de la dernière récolte en 2015. Sous sa tente, Oumara Gobo, le chef d'Assaga Niger, explique les difficultés des 100 familles sur lesquelles il veille.
La situation de la vie, c'est difficile. Depuis que nous étions ici, même avec les vivres que nous avons reçus, ça ne suffit pas. Ce que nous manquons ici maintenant, avec l'éducation, c'est bon. La santé, c'est bon. L'eau aussi, c'est bon. Mais maintenant, c'est le vivre qui nous manque. La population, ils n'ont pas labouré. Ils n'ont pas cultivé. Ils sont croisés les bras comme ça. Ils n'ont rien d'activité à faire.
Conséquence, les réfugiés et les déplacés ont faim dans les camps qui s'étendent de Diffa jusqu'aux rives du lac Tchad. Le défi humanitaire est réel, comme le reconnaît Karl Steinacker, le représentant du HCR au Niger.
On sait que beaucoup d'entre eux n'ont aucun document d'identité, donc c'est difficile d'établir leur nationalité. Mais en ce moment, on a plus de déplacés nigériens que de réfugiés nigérians. Diffa a une population de maximum 600 000 personnes. Vous y ajoutez les 100 000 personnes venues du Nigeria. Donc, sur ces 700 000 personnes au total, au moins la moitié a été déplacée.
De nombreux réfugiés ou déplacés espèrent regagner leur village, si la sécurité le permet. Un espoir qui sera long à se réaliser. En effet, la menace Boko Haram rôde le long de la rivière Komadougou. Et Nicolas Pinault, Diffa, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique centrale maintenant, élection présidentielle au Tchad. C'est aujourd'hui que la Cour constitutionnelle se prononcera sur les recours introduits par les candidats dont elle a rejeté les dossiers pour diverses raisons. Parmi la dizaine de candidats recalés figurent l'opposant historique Ngarledi Yorongar et l'ancien premier ministre de la transition Fidel Mungar. Écoutez ce qu'en dit le professeur Ahmad Mahamat Hassan, constitutionnaliste et enseignant de droit à l'université de N'Djamena.
Il me semble qu'il y a certains rejets qui ne répondent pas aux critères objectifs de violation de la loi électorale, notamment les questions, par exemple, de non-présentation de photos ou d'oubli, qui n'est pas une question intentionnelle, par exemple, pour le candidat Yorongar Ngarledi, ou bien pour d'autres également, pour qui n'ont pas de raisons fondamentales assez sérieuses pouvant justifier le rejet à ce niveau-là.
Le professeur Ahmad Mahamat Hassan, constitutionnaliste et professeur de droit à l'université de N'Djamena. Au Soudan du Sud, l'ONU revoit à la hausse le bilan de l'attaque d'un camp de déplacés à la mi-février. Dans un rapport publié aujourd'hui, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, OCHA, annonce qu'au moins 25 civils ont été tués et 120 blessés par des hommes armés portant des uniformes de l'armée gouvernementale. L'ONU avait dans un premier temps fait état de 7 morts et une quarantaine de blessés dans l'attaque de ce camp, proche de la base onusienne de Malakal, capitale de l'état pétrolier du Haut-Nil. L'ONG Médecins Sans Frontières avait, elle, parlé d'au moins 18 morts et 90 blessés. Mission de maintien de la paix de l'ONU en Afrique. L'ONU a recensé l'an dernier 69 cas d'abus sexuels qui auraient été commis par ces casques bleus. Le rapport annuel du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, note une nette augmentation par rapport à 2014, où il y avait 52 cas, et 2013 avec 66 cas. D'après l'AFP, ces cas sont concentrés sur deux pays, la République centrafricaine et la République démocratique du Congo. Le rapport recommande de créer des cours martiales sur place pour juger les coupables et de prendre les empreintes génétiques des casques bleus. Des experts américains sont arrivés en Éthiopie pour aider ce pays à faire face à sa pire sécheresse des 50 dernières années. Les précisions de Lionel Gaïma.
Ils sont une dizaine de membres de l'équipe de réponse aux désastres de l'Agence américaine pour le développement international, USAID, à avoir débarqué à Addis Abeba cette semaine. Leur mission, coordonner la réponse américaine à la sécheresse qui dévaste l'Éthiopie. Ils seront rejoints dans les prochains jours par des spécialistes de la logistique, des nutritionnistes et des experts en eau et assainissement. Il s'agit pour l'administration américaine de prévenir un désastre humanitaire majeur en Éthiopie et de préserver les gains chèrement obtenus par ce pays en matière de développement, a expliqué l'administratrice de l'USAID, Gail Smith, dans une déclaration. Lors de sa visite de l'année dernière en Afrique, le président Barack Obama s'était rendu en Éthiopie. Il a fait de la sécurité alimentaire une des priorités de sa politique en matière de développement, déclarant en 2013 que mettre un terme à la famine en Afrique relevait d'un impératif moral.
Actualité aux États-Unis maintenant. Nouveau débat télévisé côté républicain jeudi soir dans la course à la Maison-Blanche. L'homme d'affaires Donald Trump a subi les attaques répétées de ses adversaires des primaires républicaines. Michel Joseph.
De 17 candidats au départ, il n'en restait que 4 à Détroit ce jeudi soir pour le 11e débat des primaires républicaines diffusé sur la chaîne Fox News. Donald Trump a été attaqué immédiatement sur sa carrière d'homme d'affaires. Le sénateur de Floride Marco Rubio s'est attelé à saper sa réputation en insistant sur les faillites de certains de ses casinos, les entreprises ratées de l'Empire Trump ou le procès civil d'ex-étudiants de l'ex-université Trump qui vendaient des cours sur l'immobilier et l'entrepreneuriat. Vous n'avez jamais employé une personne de votre vie. J'ai employé des dizaines de milliers de personnes, a répondu Donald Trump sur la défensive. Modérateurs et rivaux ont souligné durant l'émission des contradictions et revirements du favori qui peine à persuader l'ensemble des conservateurs qu'il est bel et bien l'un des leurs. Apparemment consterné par le niveau de la discussion, le gouverneur de l'Ohio, John Kasich, s'est présenté à nouveau comme le candidat le plus raisonnable, vantant son expérience exécutive et au Congrès sur le budget. Le débat concluait une journée mouvementée pour le Parti républicain, divisé sur l'ascension irrésistible de Donald Trump.
Et pour terminer, la Corée du Nord s'est engagée aujourd'hui à renforcer sa dissuasion nucléaire. Pyongyang a qualifié d'illégale et injuste la nouvelle résolution de sanctions adoptée par le Conseil de sécurité de l'ONU contre ses programmes nucléaires et balistiques. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site Internet, c'est bien sûr voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.